pour cette rentrée au Théâtre de la Gamelle, on a ouvert des cycles à la chaîne. Après Dario Fo, l'exil avec Marina Tsetayeva, aujourd'hui, place au travail.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Noble.
Journal vivant. Politique.
Construction. Obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein. C'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.
Bonjour à tous et bienvenue au Théâtre de la Gamelle. Alors, aujourd'hui, pour nous accompagner, nous avons Jade Bréchelière.
Bonjour.
Camille Lanier.
Bonjour.
Et à la technique, et à la lecture aussi d'ailleurs, Thomas Line.
Bonjour.
Alors, cycle, travail et théâtre. Et pour ce faire, nous vous proposons la lecture d'une pièce de Georges Perec, L'Augmentation. C'est un texte qui est écrit sous la forme d'un organigramme. Vous savez, ce genre de truc qu'on fait sur Word avec des cases, des flèches, et bon, la plupart du temps, c'est un peu difficile à comprendre à première vue. Bon, et ben là, Georges Perec, il nous fait une sorte de discours ultra logique, où tout est bien ordonné, chacun dans sa case. Ça dicte une procédure à suivre à la lettre, ou sinon, eh ben, directement en prison, retourner la case départ. Non, ne passez pas par la case départ, c'est bien ça, hein. Ne passez pas par la case départ et ne touchez pas à 200 euros.
Ah non.
Donc c'est une forme assez simple au début. Nous avons une proposition, l'alternative, l'hypothèse positive, l'hypothèse négative, le choix et la conclusion. Mais cette forme exploitée dans toute sa rigueur, eh ben, nous entraîne vite dans un sorte de labyrinthe où l'absurdité de la logique prend tout son sens. Georges Perec s'amuse donc avec les mots. Il utilise des nouvelles contraintes. Contraintes. Travail. Bon, on commence.
L'augmentation. Où, comment, quelles que soient les conditions sanitaires, psychologiques, climatiques, économiques ou autres, mettre le maximum de chances de son côté en demandant à votre chef de service un réajustement de votre salaire. Vous avez mûrement réfléchi, vous avez pris votre décision et vous allez voir votre chef de service pour lui demander une augmentation. Ou bien votre chef de service est dans son bureau, ou bien votre chef de service n'est pas dans son bureau.
Si votre chef de service était dans son bureau, vous frapperiez et vous attendriez sa réponse.
Si votre chef de service n'était pas dans son bureau, vous guetteriez son retour dans le couloir.
Supposons que votre chef de service ne soit pas dans son bureau.
En ce cas, guettez son retour dans le couloir. Vous guettez dans le couloir le retour de votre chef de service. Ou bien votre chef de service revient, ou bien votre chef de service ne revient pas.
Si votre chef de service revient, vous irez frapper à la porte de son bureau et vous attendrez sa réponse.
Si votre chef de service ne revient pas, le mieux que vous ayez à faire est d'aller dans le bureau voisin, voir votre collègue, Madame Yolande.
Supposons que votre chef de service tarde à venir. En ce cas, vous allez voir Mademoiselle Yolande. Vous allez voir Mademoiselle Yolande. Mais ou bien Mademoiselle Yolande est dans son bureau, ou bien Mademoiselle Yolande n'est pas dans son bureau.
Si Mademoiselle Yolande était dans son bureau, vous pourriez, à condition bien sûr qu'elle soit de bonne humeur, bavarder un instant avec elle en attendant le retour de votre chef de service.
Mais si Mademoiselle Yolande n'est pas dans son bureau, il ne vous reste plus qu'à faire le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'organisation qui vous emploie en attendant un moment plus propice pour aller voir votre chef de service.
Supposons que Mademoiselle Yolande ne soit pas dans son bureau.
En ce cas, vous faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'organisme qui vous emploie et vous attendez un moment plus propice pour aller voir votre chef de service. Vous retournez voir votre chef de service. Ou bien il est dans son bureau, ou bien il n'est pas dans son bureau.
S'il était dans son bureau, vous frapperiez et vous attendriez sa réponse.
Mais supposons plutôt qu'il ne soit pas dans son bureau.
En ce cas, vous guettez son retour dans le couloir. Vous guettez dans le couloir le retour de votre chef de service. Ou bien il ne tarde pas à venir, ou bien il tarde à venir.
S'il ne tardait pas à revenir, vous pourriez aller frapper à son bureau et attendre sa réponse.
Mais s'il tardait à revenir, le mieux que vous auriez à faire serait d'aller dans le bureau voisin voir Mademoiselle Yolande, votre collègue.
Supposons, chose qui se voit tous les jours, que votre chef de service tarde à revenir.
En ce cas, vous allez voir Mademoiselle Yolande. Vous allez voir Mademoiselle Yolande, ou bien elle est dans son bureau, ou bien elle n'est pas dans son bureau.
Si elle était dans son bureau, vous pourriez, à condition qu'elle soit de bonne humeur, bavarder un instant avec elle.
Si elle n'était pas dans son bureau, vous n'auriez plus qu'à faire le tour des différents services dont l'ensemble constitue, tout en partie, de l'entreprise qui vous emploie, en attendant une circonstance plus favorable pour aller voir votre chef de service.
Supposons, pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que Mademoiselle Yolande ne soit pas dans son bureau.
En ce cas, vous pourrez bavarder un instant avec elle.
À condition, toutefois, qu'elle soit de bonne humeur.
Car si Mademoiselle Yolande n'est pas de bonne humeur, elle ne voudra pas bavarder avec vous, et vous n'aurez plus qu'à faire le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout en partie de l'entreprise qui vous emploie, en attendant une circonstance plus favorable pour aller voir votre chef de service.
Supposons, chose qui se voit tous les jours, que Mademoiselle Yolande ne soit pas de bonne humeur.
En ce cas, vous faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de l'entreprise qui vous emploie et vous attendez une circonstance plus favorable pour aller voir votre chef de service.
Vous retournez voir votre chef de service. Il n'est pas dans son bureau. Vous allez voir Yolande. Ou bien elle est là, ou bien elle n'est pas là.
Si elle est là, vous pourrez, à condition qu'elle soit de bonne humeur, bien sûr, lui faire un instant la causette.
Si elle n'est pas là, vous n'aurez plus qu'à faire le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de la société qui vous emploie en attendant un jour heureux pour aller voir votre chef de service.
Supposons, pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que Mademoiselle Yolande soit dans son bureau.
Ou bien elle est de bonne humeur, ou bien elle n'est pas de bonne humeur.
Supposons, pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que Yolande soit de bonne humeur.
En ce cas, vous y faites la causette à Yolande.
Vous faites un brin de causette à Yolande. Ou bien, par la porte vitrée du bureau de Mademoiselle Yolande, vous apercevez votre chef de service qui regagne son bureau, ou bien, par la porte vitrée du bureau de Mademoiselle Yolande, vous n'apercevez rien du tout, et en tout cas pas votre chef de service regagnant son bureau.
Si, regagnant son bureau, votre chef de service, vous l'aperceviez par la porte vitrée du bureau de Mademoiselle Yolande, vous n'auriez plus qu'à trouver un prétexte pour sortir et vous iriez frapper au bureau de votre chef de service.
Par contre, si vous n'apercevez rien du tout, vous devez continuer à bavarder avec Mademoiselle Yolande.
Supposons, chose qui se voit tous les jours, que vous n'apercevez pas votre chef de service par la porte vitrée du bureau de Yolande.
Vous continuez à lui tenir la jambe à Yolande.
Vous continuez à lui causer à Yolande. Si vous vous apercevez votre chef de service, vous trouvez un prétexte pour sortir et vous allez frapper à son bureau.
Sinon, votre conversation avec Mademoiselle Yolande risque de s'éterniser.
Et si vous ne trouvez pas les thèmes de discussion aussi féconds qu'originaux, La bonne humeur de cette brave Yolande va fondre comme neige au soleil et vous n'aurez plus qu'à faire le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie du consortium qui vous emploie en attendant une heure plus clémente pour aller trouver votre chef de service.
Supposons donc, pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que tandis qu'Intérissa vous bavardez avec Yolande, vous apercevez par la porte vitrée votre chef de service qui regagne son bureau.
Ouf !
Immédiatement, rapide comme l'éclair, vous trouvez un prétexte pour sortir, vous allez frapper à la porte du bureau de votre chef de service.
Vous frappez à la porte du bureau de votre chef de service. Ou bien il vous répond « Entrez », ou bien il ne vous répond pas.
S'il vous répond « Entrez », vous entrez. Sauf si vous êtes complètement idiot ou si une surdité précoce vous menace.
S'il ne vous répond pas, vous faites demi-tour et vous regagnez mélancoliquement, perplexe, mais pas vraiment découragé, votre propre bureau en attendant une occasion plus heureuse pour aller trouver votre chef de service.
Supposons que, chose qui se voit tous les jours,
vous faites demi-tour et vous regagnez mélancoliquement, perplexe, mais pas vraiment découragé, votre bureau, en attendant une occasion plus heureuse pour aller trouver votre chef de service.
Monsieur le chef de service ?
Je ne sais pas s'il est dans son bureau. Vous pourriez peut-être frapper à sa porte.
Vous frappez.
Ou bien il vous dit d'entrer.
Et vous entrez !
Ou bien il ne répond pas.
Et vous attendez un instant avant de refrapper.
L'expérience prouve que dans 74,6% des cas, un chef de service ne répond pas au premier toc-toc-toc-toc-toc émis dans le médium recourbé d'un subalterne venant pleurer pour une augmentation.
Vous refrappez.
Vous refrappez.
Vous refrappez. Et nous en insister, vous n'aurez plus qu'à rebrousser chemin, attendant que le sort vous soit moins contraire, avant d'à nouveau tenter d'affronter votre chef de service.
Supposons, pour simplifier,
car il faut toujours simplifier,
que votre chef de service, une fois n'est pas coutume, vous dise d'entrer.
Ou bien vous êtes complètement idiot, ou bien vous n'êtes pas complètement idiot.
Il faudrait être complètement idiot pour ne pas entrer.
Si vous n'êtes pas complètement idiot, vous entrez.
Supposons, pour simplifier.
Car il faut toujours simplifier.
Que vous n'êtes pas complètement idiot.
Vous entrez.
Vous entrez. Vous êtes dans le bureau de votre chef de service. Ou bien votre chef de service accepte de vous recevoir tout de suite et sur le champ. Ou bien votre chef de service vous suggère de revenir plus tard.
Supposons, chose qui se voit tous les jours, que votre chef de service ait décidé de consacrer sa matinée à un projet personnel qu'il caresse depuis longtemps, à savoir aller trouver son chef à lui pour lui demander une augmentation.
C'est parfaitement son droit.
Il vous demandera donc de revenir plus tard.
En ce cas, obtempérant, vous sortez à reculons sans oublier de remercier votre chef de service et sans omettre de refermer la porte qui est derrière vous.
Vous retournez voir votre chef de service. Ou bien il est là, ou bien il n'est pas là.
S'il n'était pas là, vous l'attendriez dans le couloir. S'il tardait à revenir, vous iriez voir Mademoiselle Yolande. Si Mademoiselle Yolande n'était pas là, ou si Mademoiselle Yolande était de mauvaise humeur, vous feriez le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout en partie du trust auquel, pour un salaire de misère, vous avez sacrifié les plus belles années de votre vie attendant que les astres vous soient favorables pour revenir à l'assaut de votre chef de service.
Mais bon, admettons, pour simplifier, car il faut toujours simplifier, que votre chef de service soit dans son bureau.
Vous frappez à sa porte et vous attendez sa réponse.
Vous frappez.
Entrez.
Vous entrez.
Vous êtes dans le bureau de votre chef de service. Ou bien il vous reçoit tout de suite, ou bien il vous demande de revenir plus tard.
C'est l'évidence même.
Supposons.
Pour simplifier. Car il faut toujours simplifier.
Qu'exceptionnellement, il accepte, votre chef de service, de vous recevoir illico et sur le champ.
Oh, vous avez une sacrée chance.
Vous êtes dans le bureau de votre chef de service et votre chef de service accepte de vous écouter. Mais ou bien il vous offre un siège, ou bien il ne vous offre pas de siège.
S'il vous offrait un siège, cela signifierait qu'il est poli.
S'il ne vous offrait pas de siège, cela voudrait dire qu'il est préoccupé par quelque chose.
Supposons que votre chef de service ne vous offre pas de siège.
Cela signifie-t-il qu'il est impoli ?
Pas nécessairement. Cela signifie que quelque chose le préoccupe.
Qu'est-ce qui préoccupe votre chef de service ?
Peut-être n'arrive-t-il pas, en dépit d'innombrables tentatives, à pénétrer dans le bureau de son chef pour lui demander une augmentation ?
Peut-être a-t-il des ennuis avec Madame Yolande.
Peut-être est-il ému par l'exceptionnelle rigueur dont semble faire preuve le contrôle des changes.
Peut-être a-t-il coulé une bielle le jour où la garantie de sa nouvelle automobile expirait.
Peut-être a-t-il, le matin même, fait 5 heures de queue, sans pour finir obtenir de place pour le prochain concert d'Edgar Van Denskeo.
Peut-être a-t-il des ennuis avec sa santé.
Vous demandez à votre chef de service si une de ses filles a la rougeole. Il vous répondra par oui ou par non.
Suppose qu'il vous réponde oui. Regardez s'il a des boutons rouges sur la figure.
S'il a des boutons rouges sur la figure, sortez précipitamment, alertez les services d'urgence et enfermez votre chef de service dans son bureau pendant 40 jours.
S'il n'a pas de boutons rouges sur la figure, décontractez-vous et exposez votre problème.
Supposons que votre chef de service ait des boutons rouges sur la figure.
Sortez précipitamment!
Alertez le service d'urgence!
Emmenez votre chef service dans son bureau pendant 40 jours!
La rougeole. En 1969, sur 19 432 cas de rougeole déclarés, 111 s'avèrent mortels. Ce qui laisse tout de même à peu près 99,5 chances de survie sur 100 à votre chef de service. La rougeole est une fièvre éruptive, contagieuse et épidémique, caractérisée par une phlegmasie cutanée légère ou, si l'on préfère, par un exanthème formé de petites taches rouges peu saillantes sur la peau. Elle est précédée et accompagnée de fièvre, de coryza, d'angine, de larmoiement et de toux. Ses principales complications sont la bronchopneumonie, les laryngites et les encéphalites. On la traite efficacement au moyen de sulfamide et de pénicilline.
40 jours plus tard, ou bien votre chef de service est mort, ou bien votre chef de service n'est pas mort.
Supposons qu'il soit mort.
Vous allez voir votre nouveau chef de service.
Supposons qu'il ne soit pas dans son bureau.
Vous l'attendez dans le couloir.
Supposons qu'il tarde à revenir.
Vous allez voir Madame Yolande.
Supposons que Madame Yolande soit en vacances en Tunisie avec son mari et ses deux enfants.
Vous faites le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout ou partie de la vaste organisation dont vous n'êtes plus qu'un pion minuscule.
Vous allez voir votre chef de service.
Est-il dans son bureau?
Mais oui.
Vous frappez.
Répond-il?
Non.
Vous refrappez.
Répond-il?
Oui.
Vous entrez.
Accepte-t-il de vous recevoir sur le champ?
Mettons que oui. Mais c'est bien parce que c'est vous.
Vous offre-t-il un siège?
Dans un louable effort de simplification.
Il faut toujours simplifier.
Nous irons jusqu'à admettre qu'effectivement, pour une fois, votre chef de service vous invite à vous asseoir.
Ah, vous vous asseyez.
Décontractez-vous. Respirez profondément. Essuyez la sueur qui ruisselle sur votre visage. Maîtrisez les tremblements nerveux qui font s'entrechoquer vos genoux. Rappelez-vous qu'il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer. Exposez votre cas d'une voix intelligible et avec le maximum de concision et de clarté. Sachez trouver les mots qu'il faut pour convaincre. Mettez tout en œuvre pour remuer le cœur de pierre de votre chef de service. Mais tentez de conserver jusqu'au bout un peu de cette dignité et de cette fierté qui font de vous un citoyen conscient de ses devoirs et de ses droits. Ne vous jetez pas aux pieds de votre chef de service. Ne lui embrassez pas les genoux.
Dites-lui que vous en avez gros sur le cœur, sur la patate. Que vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts, que ce n'est pas pour vous que vous venez implorer, mais pour votre épouse usée par les ménages et vos 5 enfants et la maladie qui guette
la rougeole,
la scarlatine,
les oreillons,
la jaunisse,
la myxomatose,
la débilité, graisseuse,
les pieds plats,
la débilité.
Ou bien votre discours va convaincre votre chef de service, ou bien votre discours ne va pas convaincre votre chef de service.
Si votre discours convainc votre chef de service, cela pourrait être bon signe.
Mais si votre discours ne convainc pas votre chef de service, cela n'avancera certainement pas votre affaire.
Or, il est bien évident que vous n'arriverez pas à convaincre comme ça, du premier coup, votre chef de service. Où irait la vaste organisation dont vous êtes qu'un microscopique rouage? Si chaque microscopique rouage obtenait une augmentation la première fois qu'elle en faisait la demande, votre chef de service le sait bien, et c'est même pour cela qu'il est chef de service.
Quoi?
Va-t-il rugir?
Vous, un employé que l'on disait modèle, venir mendier pour quelques misérables centimes alors que les biafrais s'étranglent avec un grain de riz, alors que les cadres en pleine expansion sont tragiquement réduits au chômage à 40 ans à peine? Vous osez vous plaindre alors que vous avez un véhicule automobile, un réfrigérateur, un fer à repasser électrique? Vous êtes la honte de votre établissement. On vous voit au café tous les soirs, ivrogne, fainéant, profiteur, vous grugez la sécurité sociale. Vous avez même essayé de tricher au tiercé.
Salaud, mauvais français.
Estimez-vous heureux que je ne vous foute pas à la porte avec mon pied quelque part? Et si je ne vous fais pas passer devant le conseil de discipline? Sortez, que je ne vous y reprenne plus.
Ne faites aucun geste que vous pourriez regretter par la suite. Levez-vous dignement et sortez de même.
Vous allez voir votre chef de service.
Supposons qu'il soit dans son bureau.
Supposons qu'il vous réponde d'entrée.
Supposons que votre chef de service vous adresse son plus charmant sourire et vous offre un siège.
Vous vous asseyez et vous exposez votre problème. Ou bien votre discours va profondément émouvoir votre chef de service. Ou bien il ne va lui faire ni chaud ni froid.
Si votre chef de service est ému, cela pourrait être un bon signe.
Mais s'il reste de glace aussi, il donne des signes manifestes d'impatience, tandis que du plus profond de votre cœur, vous lui narrez la monotone grisaille de votre existence souffreteuse. Cela n'avancera certainement pas votre affaire.
Nous supposerons, non pour simplifier.
Et pourtant, il faut toujours simplifier.
Ouais, bon. Mais pour bien montrer que nous sommes profondément humains, et que les malheurs d'autrui nous touchent,
nous atteignent,
nous émeuvent,
nous bouleversent,
nous sont insupportables.
Nous supposerons donc que votre chef de service est profondément ébranlé par votre démarche.
Comme il vous comprend, comme il vous plaint. Oui, la vie n'est pas drôle tous les jours. À chacun ses soucis, à chacun son Golgotha, lui-même écrasé par les traites. Madame Yolande, qui, restée seule, doit pourvoir aux besoins de ses enfants et petits-enfants, n'a-t-elle pourtant pas assez travaillé, la pauvre? N'aurait-elle pas droit à une vie enfin paisible à la campagne?
Comme il souhaiterait pouvoir vous aider, votre chef de service. Comme il souhaiterait pouvoir accéder à la requête que vous avez raison de formuler. Mais...
Les choses étant ce qu'elles sont.
Vos notes.
Les jugements émis par vos collègues et par vos supérieurs directs font que, quelle que soit
l'estime,
l'amitié,
l'affection,
la sympathie que l'on puisse avoir pour vous, votre comportement au travail ne mérite pas qu'une telle demande soit prise en considération.
Soyez courageux, serrez la main que vous tend votre chef de service, essuyez-vous furtivement les yeux, sortez le plus dignement possible.
N'oubliez pas de refermer la porte derrière vous, s'il vous plaît, cela fait des courants d'air. Merci.
Vous allez voir votre chef de service. Supposons qu'il soit dans son bureau.
Vous frappez et vous attendez la réponse.
Entrez.
Vous ouvrez la porte, vous entrez, vous refermez la porte, vous vous arrêtez à quelques pas de votre chef de service et vous attendez.
Asseyez-vous.
Vous prenez le siège que votre chef de service vous offre, vous vous asseyez et vous attendez.
Bon. Mettons que votre chef de service ne vous demande pas ce qu'il y a pour votre service.
Ça ne fait rien. Vous vous raclez la gorge et vous exposez votre problème.
Vous vous raclez la gorge, pas trop longtemps, et vous exposez votre problème à votre chef de service.
Ou bien votre chef de service vous comprend, ou bien votre chef de service ne vous comprend pas.
Bon, nous supposerons, montrant par là, que nous sommes profondément humains.
Car nous sommes profondément humains.
Nous savons comprendre les aspirations de nos employés.
C'est notre rôle à nous autres, les chefs de service, de les écouter nous parler de leurs problèmes, de leurs souhaits. Et nous faisons tout pour les aider.
Le comité d'entreprise n'a-t-il pas organisé un voyage à Baden-Baden l'année dernière ?
N'y a-t-il pas eu du pâté de foie dans le colis pour les vieux à la fête de Noël l'année passée ?
Et les séances de ciné gratuites pour les enfants !
Et la merveilleuse coupe offerte par le chef du personnel au vainqueur du championnat de boules interatelier !
Oh, bref, il va de soi que votre chef de service vous comprend.
Oui, de tous les employés de cette vaste entreprise, de cette vaste famille, ou même un cœur bas sous 10 000 poitrines, vous êtes à coup sûr l'un des plus méritants. Il ne sera pas dit que vos chefs se montreront ingrats envers un de leurs fils les plus chéris, un de ceux qui toujours donna l'exemple. Dès demain, votre chef de service exposera votre cas à l'attention du conseil d'administration et vous pourrez être sûr qu'à la prochaine promotion de la médaille du travail, vous serez décoré.
Waouh! Vous serrez les deux mains que vous tend votre chef de service, vous maîtrisez votre émotion et vous sortez sans omettre de refermer la porte derrière vous. Voilà, car il y a des courants d'air et votre bien-aimé chef de service risquerait de prendre froid. Là, voilà, merci.
Quelques mois plus tard, par un beau matin de septembre devant le personnel au complet réuni au garde-à-vous, dans la cour d'honneur, en présence du préfet et des conseillers généraux, du maire et du conseil municipal, du commandant d'armes et d'un détachement rendant les honneurs de l'archevêque et de la chorale et du conseil d'administration avec à sa tête le président directeur général, fondateur et principal actionnaire de la vaste organisation dont vous étiez ce jour-là le modeste héros et le vivant symbole, monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, que flanquait le sous-secrétaire d'État au plan et les chefs du cabinet du ministère des Affaires sociales vous décoraient de la médaille du travail.
Waouh, ruban tricolore !
Une médaille ronde ! Côté fesses, la devise « Liberté, égalité, fraternité » entoure une tête de Marianne enguirlandée.
Oh, et de côté pile, la semeuse que le soleil auréole surmonte les mots « Au travail et à la probité, la patrie reconnaissante ».
Cependant que le directeur régional de la Caisse d'allocation familiale vous remettait pour vos trois bombins trois livrets de caisse d'épargne, chacun porteur d'un capital initial de 5 euros, que le temps fera fructifier à raison de 2,25% par an.
Pour ne pas être en reste, vous avez consacré le jour béni de votre promotion par un grand banquet réunissant vos parents, vos alliés, vos voisins et vos collègues. Banquet que votre chef de service a volontiers accepté de présider.
Ces festivités ont eu pour conséquence directe de gréver notablement votre budget et de vous endetter auprès de divers fournisseurs, restaurateurs et cabaretiers.
Pour faire face à ces obligations nouvelles, vous vous décidez, au bout d'un certain temps, à retourner voir votre chef de service.
Ou bien il est dans son bureau, ou bien il n'est pas dans son bureau.
Il n'est pas dans son bureau.
Vous guettez son retour dans le couloir.
Il n'a pas l'air de revenir.
Ah, vous allez voir Mademoiselle Hermeline.
Comment ? Mais et Madame Yolande ?
Enfin, vous savez bien que Madame Yolande a pris sa retraite.
La pauvre, on dit qu'elle va pas très fort.
Ses enfants parlent de la mettre à l'hospice.
À l'hospice ? Vous voulez dire à l'asile ? Elle est complètement folle, la pauvre.
Les plus à peindre sont encore ceux qui restent.
Ah, à qui le dites-vous ?
Bon, alors, Mademoiselle Hermeline ?
Ou bien elle est là ? Ou bien elle n'est pas là.
Elle n'est pas là.
Mademoiselle Hermeline n'a ni l'assiduité ni l'égalité d'humeur de Madame Yolande. Les choses ne sont plus ce qu'elles sont.
C'était le bon temps. Allez.
Vous allez voir votre chef de service. S'il était là, vous frapperiez et vous attendriez sa réponse. Or, justement, il est là. Donc, vous frappez. S'il ne répondait pas, vous refrapperiez. Mais justement, il répond. Donc, vous entrez. S'il vous offre un siège, vous vous asseyez. Or, précisément, il vous offre un siège. Donc, vous asseyez. Et s'il vous demandait quel bon vent vous amène et ce qu'il peut faire pour votre service, vous y diriez. Or, voilà type que... Ah bah justement, il vous demande ce qu'il peut donc faire pour vous. Ah bah donc vous y dites.
Vous narrez par le menu à votre chef de service les tenants et aboutissants de vos difficultés fiduciaires, financières, budgétaires et économiques.
Supposons pour simplifier,
car nous sommes profondément humains,
que votre chef de service vous comprend.
Il ferait tout pour vous, votre chef de service. Il ne tient qu'à vous.
Hélas, trois fois, hélas.
Oh, les choses étant ce qu'elles sont, les menaces de la concurrence,
la situation délicate provoquée par l'abaissement des droits de douane, la position de livre sterling
du marquis,
stipulation du
dollar,
Kennedy Round,
du franc,
le marketing, les problèmes de main d'œuvre, la fluctuation des cours,
le risque d'inflammation, d'un rachat,
la politique, les incertitudes,
la recherche opérationnelle,
les conditions draconiennes imposées à nos exportations,
les OPA,
les campagnes promotionnelles,
absorption, nationalisation,
du marketing,
instabilité même de la clientèle, la fluctuation des cours,
les
campagnes promotionnelles,
les risques toujours possibles d'une OPA,
ont pour l'inéductable conséquence qu'il ne saurait être question, quel que soit le bien fondé de votre requête, et croyez-le, votre chef de service est tout entier de votre côté, d'envisager dans un avenir immédiat une augmentation, fût-elle la plus minime, de la masse salariale.
Le moment est mal choisi. C'est la faute à pas de chance. Soyez sûr que, quand la situation se sera améliorée, nous saurons vraiment récompenser vos éminents services.
Vous remerciez votre chef de service, vous lui serrez affectueusement la main, vous souriez, fier d'appartenir à une société qui n'hésite pas à imposer aux siens les sacrifices nécessaires quand il s'agit de faire face et de tenir bon.
Vous laissez passer quelques mois. D'ailleurs, votre chef de service est en vacances. Puis Mademoiselle Hermeline attrape la rougeole. Grâce à d'habiles compressions de personnel auxquelles vous échappez miraculeusement et à l'absorption de quelques petits concurrents, la de plus en plus gigantesque société qui vous est si chère parvient à consolider sa position sur le marché. Vous retournez voir votre chef de service.
Entrez.
Vous entrez, ou alors c'est que vous commencez à être vraiment gâteux.
Il vous invite à vous asseoir, vous lui exposez votre problème.
Embauché à l'âge de 14 ans, comme assistant coursier non qualifié aux appointements de 11 872 francs légers mensuels, vous êtes, au terme de 43 années de bons et loyaux services, parvenu au poste de sous-commis principal, faisant fonction de sous-chef attaché au chargé d'études délégué dans les fonctions d'assistant, au co-directeur des services centraux de statistiques évolutionnelles et de prospectives structurales catégorie 3, 9e échelon, groupe 2, résus positif, classe C. Indice corrigé 321, soit un salaire net, déduction faite des charges sociales afférentes et de diverses contributions imposées au titre de la politique d'intéressement de 778 francs lourds, 17 nouveaux centimes.
Ou bien l'énoncé de votre condition va faire saigner le cœur de Pierre.
Ah non, le chef de service, il s'appelle Pierre ?
Non, le cœur de Pierre. Comment ?
De Pierre.
Le cœur de Pierre de votre chef de service.
Ah, d'accord.
Voilà, c'est le cœur de...
Bon. Le cœur de Pierre de... Ouais, c'est bon.
Ou bien, elle va le laisser complètement froid, le cœur de... Enfin.
Ouais.
Mais votre chef de service, Pierre donc, est un être profondément humain. Votre discours le bouleverse. Il se jette à vos pieds. Il arrache les boutons de son gilet. Il bat sa coulpe. Il fait le signe de croix.
Comment? Mais je ne savais pas. Il fallait venir me voir plus tôt. C'est inadmissible. C'est profondément injuste. Cela ne se passera pas comme ça. Ah, s'il était en mon pouvoir de vous donner une augmentation, vous sortiriez de mon bureau plus riche que vous n'y êtes entré.
Mais, hélas...
Dans une entreprise de la taille de celle où vous travaillez, L'une des premières du pays.
Et c'est pour ça que vous êtes fière d'y appartenir.
Une augmentation de salaire pose des problèmes très complexes, non seulement sur le plan comptable, mais pour tout ce qui relève de la politique, politique économique et sociale, à court terme,
à long terme.
Pour bien vous montrer qu'il est tout à fait de votre côté.
De votre côté.
Qu'il comprend votre démarche.
Il l'encourage,
votre chef de service peut vous donner des espérances.
Il fera un rapport favorable au directeur du personnel,
lequel,
après consultation des organismes comptables, pourra...
Éventuellement,
dans le cadre d'une réévaluation globale de la masse salariale, qui constitue d'ailleurs une préoccupation constante du patronat, proposez votre nom au cours d'une réunion du conseil d'administration.
Faites confiance à votre chef de service. Ne soyez pas désespéré. N'avez-vous pas obtenu ce que vous désirez? Le plus ardemment, vous êtes allé voir votre chef de service pour lui demander une augmentation et votre chef de service vous a laissé entrevoir l'espoir. Oui, l'espoir d'une augmentation.
Oui.
Serrez affectueusement les mains de votre chef de service. Remerciez-le chaudement. Et n'oubliez pas, en sortant, de refermer la porte derrière vous. Car il y a un foutu courant d'air et votre chef de service risquerait d'attraper un rhume.
Merci.
Vous êtes allé voir votre chef de service. Il était là. Il a répondu quand vous avez frappé. Vous êtes entré. Il vous a dit de vous asseoir, ce que vous avez fait.
Vous lui avez narré, par le menu, toute la délicatesse de votre situation économique et vous lui avez demandé une augmentation.
Tout à fait d'accord avec vous. Quant au bien fondé de votre démarche, votre chef de service vous a signifié qu'une augmentation d'un salaire dans le cadre de la vaste entreprise dont vous n'êtes qu'un des innombrables éléments posait des problèmes fort complexes engageant la totalité des services comptables, économiques, financiers et responsables.
Il vous a néanmoins fortement promis d'appuyer votre revendication et vous a laissé entendre qu'une réponse favorable pourrait être donnée dans un délai qu'il a, plus ou moins arbitrairement, fixé à 6 mois.
Vous attendez donc 6 mois, et au bout de 6 mois, ou bien vous avez obtenu votre augmentation et dès lors, il n'y a plus de problème.
Hey!
Ou bien vous n'avez pas obtenu votre augmentation et tout reste à recommencer.
En ce cas, vous n'avez plus qu'à recommencer.
En allant voir votre chef de service.
En allant voir Mademoiselle Hermeline, en bavardant un instant avec elle, si toutefois elle est de bonne humeur. Vous allez voir votre chef de service.
Il vous propose un fauteuil.
Ou en faisant le tour des différents services dont l'ensemble constitue tout en partie de la noble entreprise à laquelle vous avez consacré tout au long de votre vie le meilleur de vous-même.
Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin. Es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Trabajar con nieve y con frío, con la fe del que ha de triunfar. Porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Tener confianza y luchar por algo mejor. Trabajar con fe y esperanza por lograr un mundo de amor. El trabajo nace con la persona, va grabado sobre su piel y ya siempre le acompaña como el amigo más fiel. Arrastrar la dura cadena, trabajar sin tregua y sin fin, es lo mismo que una condena que ninguno puede eludir. El trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona, el trabajo nace con la persona.
Voilà, nous avons donc lu l'augmentation de Georges Perec et nous avons conclu avec cette magnifique chanson de Raphaël, le chanteur espagnol, avec la canción El Trabajo. Et maintenant, mais c'est l'heure de la chronique de Thomaline, c'est à toi.
Et bonjour tout le monde. Cette semaine, j'ai été voir Hors-jeu de et avec Enzo Corman. Je dois dès à présent vous prévenir que ceci est un résumé de pièces de théâtre et en fait du fait divers qui a inspiré cette pièce de théâtre et que ce qui va être dit ici n'est absolument, absolument pas à faire chez soi, surtout que ça a déjà été fait, c'est là que c'est drôle, par un Allemand, et que ça n'a pas marché super. Un avertissement va donc apparaître au bas de votre écran, voilà, et voici Hors-jeu de Enzo Corman en 3 minutes.
Tu n'as pas d'argent, tu es au chômage, tu es ingénieur, tu es surqualifié, tu es intelligent, tu veux faire quelque chose de ta vie. Mais ta conseillère Pôle emploi, elle te les casse, elle te convoque en entretien tout le temps. C'est à croire qu'elle veut te baiser, mais tu ne sais pas dans quel sens. Tu passes de rendez-vous en formation courte au rendez-vous en stage de rédaction de CV. Mais tu sais rédiger un CV et surtout, tu sais que pour faire un CV, la première chose qu'il faut mettre dessus, c'est des boulots. Mais comme tu es au chômage, c'est que justement, tu n'en as pas de boulot à mettre dessus. Alors ton CV, qu'importe les stages, il schlingue. Et le fait qu'il faut avoir un boulot pour pouvoir faire un CV, c'est un truc que ces experts en CV, ils ne disent jamais. C'est ce qui te fait te dire que ce sont peut-être pas des experts en CV. Ta conseillère pour l'emploi, elle est experte en CV. Elle est experte en recherche d'emploi et quand elle te parle, la seule chose à laquelle tu penses, c'est que si ça se trouve, elle a été dans ta position et que c'est pour ça qu'elle se dit experte en recherche d'emploi. Alors qu'en fait, le métier que tu devrais faire, c'est conseiller Pôle emploi parce que tu devines qu'il n'y a pas de chômage dans cette branche et qu'en fait, c'est ça l'avenir. Des gens qui tombent au chômage puis deviennent conseiller Pôle emploi pour s'occuper des suivants qui tombent au chômage. Et tu lui demandes, vous avez un plan de retraite à Pôle emploi? Et elle te dit, vous ne m'écoutez pas, monsieur. Tu fais le gentil. T'apprends à garder ton sourire, mais tu t'aperçois que ça l'amène tronche qu'Arnold Schwarzenegger dans Terminator quand il essaie de sourire et que non seulement ça marche pas, mais qu'en plus, on va finir par te prendre pour un dingue. Tu vas chez le roi Merlin, ceux qui ont réussi à imposer le travail le dimanche, et tu demandes un vendeur. Et tu lui dis que tu veux creuser un trou chez toi. Il te conseille une bêche. Tu la regardes, tu la prends en main, tu fais quelques mouvements. Non, c'est pas ça. Tu lui dis que le sol est un peu plus dur. Lui, il est tout content parce que tu lui demandes son expertise sur le creusage des sols. Entre deux petits soupirs de midinette, il te conseille une pioche. Tu la prends en main, tu fais quelques mouvements, c'est mieux. Mais il manque encore quelque chose. Alors il te dit, essayez celle-là avec un manche long. C'est parfait. Tu fais ton sourire d'Arnold Schwarzenegger et tu vas à la caisse. Ta carte passe pas. T'as un peu de liquide, mais tu voulais le garder pour t'acheter des clopes avant ton rendez-vous à Pôle emploi. Et c'est là que tu comprends. Les clopes, c'est pas grave. C'est pas ce qu'il faut pour se détendre. Tu deviens un expert, toi aussi. En arrivant à Pôle emploi, il y a un mec qui est en train de s'occuper des parterres de fleurs. Il est en vert. C'est William! C'est un ancien collègue à toi. Un ingénieur aussi. Il te reconnaît et tu fais un sourire de Schwarzenegger. Tu es à l'heure pour ton rendez-vous. Parce qu'ils sont intransigeants sur les retards. Parce que les chômeurs n'ont rien à faire d'autre qu'être à l'heure à leur rendez-vous. Ta conseillère Pôle emploi, c'est la première de tout ce bâtiment à s'apercevoir que tu es venu avec la pioche. T'as l'air un peu con comme ça. Mais elle, elle est toute contente. Elle te dit, « Ah, vous avez enfin décidé de vous reconvertir. C'est bien ça. » Tu lèves la pioche et tu la plantes dans le crâne de cette connasse. Et ça, ça détend. Voilà. Tu es enfin devenu un expert en détente.
«
c'était Hors-jeu de Enzo Corman en 3 minutes. C'est une mise en scène par Philippe Delegue, création sonore et musicale de Philippe Gordiani, lumière et scénographie de Sébastien Marc, costume d'Ariane Sterp avec la collaboration artistique de Sabrina Pérez. Et en ce moment, c'est au Théâtre de la Renaissance et jusqu'au 23 octobre. Et pour information, le Théâtre de la Renaissance n'est pas si loin, il est à 20 mètres de la station de métro Gare d'Oulin.
Et on a un bonus, non, je crois?
Alors oui, comme on a des amis qui sont en train de jouer Andromaque au Théâtre de l'Uchronie, voilà, j'ai du coup décidé de faire aussi un Andromaque, mais cette fois-ci c'est en 20 secondes. Donc voici Andromaque avec la mise en scène de Nicolas Guépin, avec Amandine Vison, Nicolas Guépin et Mario Roussel, en 20 secondes.
Pyrrhus,
Hermione.
Tu m'as trompé. Tu l'es. Connard.
Pourquoi? Parce que ferme ta gueule.
C'était Andromaque, un cabaret en 20 secondes, donc avec la spéciale dédicace aux copains. Et je repasse maintenant Charlotte.
Merci pour
les autres événements.
Voilà, d'autres informations pour l'agenda. Et donc, pour ce soir, si vous êtes du côté de Rive-de-Gier, dans le 4-2, il y a la pièce nommée Cerise et Grenade, qui est mise en scène par Anaïs Sintas. Mmh. Et donc, c'est une tribune pour trois femmes révolutionnaires, Louise Michel, Rosa Luxembourg et Angela Davis. C'est donc ce soir à 19h30 au Théâtre Couson. C'est donc la MJC à Rive-de-Gier. Et un autre événement ce soir, c'est au Nouveau Théâtre du 8e. À 19h, c'est une rencontre débat intitulée « Femmes de théâtre, politique et féminisme ». Donc il y aura des débats, des lectures de textes avec par exemple Patricia Artes qui va parler du Teatro Público au Chili. Il y aura également Léonie Castel et Marine Bachelot-Nguyen qui sont toutes les deux membres de l'association Égalité Hommes et Femmes. Je crois qu'il y en a une qui est de Rhône-Alpes et une en Bretagne et qui sont des auteurs avec un E. Enfin, elles, parce qu'elles sont deux théâtres féministes. Et donc, on va parler de la question de l'engagement, des parcours, de leur parcours artistique. Et maintenant, Jade, tu as une autre recommandation.
Oui, c'était pour vous dire que samedi 17 octobre 2015, donc je crois que c'est demain, à 21h, au théâtre de l'Iris à Villeurbanne, il y a un spectacle qui s'appelle « Les cendres de Pasolini et celles des autres aussi ». Voilà, qui se joue, je crois que c'est un beau délire autour de Pasolini et monté, écrit, etc. par des jeunes acteurs. Donc je vous encourage, je crois que c'est d'une belle qualité. C'est donc au Théâtre de l'Iris à Villeurbanne à 21h demain soir, samedi 17.
Je vous remercie tous les trois d'avoir participé à la lecture de l'augmentation. Donc il y avait Jade Bréchelière.
Merci à toi, Charlotte.
C'est un plaisir. Il y avait Camille Lanier.
Merci à toi.
Ouais, c'est trop. Et Thomas Lynn, qui en plus a fait la technique.
Merci à toi.
Eh ben, je vous remercie à tous et passez une bonne semaine. Au revoir.
Au revoir.
Il était sur son char.
Amateur.
Il n'y a pas d'art neutre. L'art combat ou sert la cause prolétarienne.
Clandinardaire, noble.
Journal vivant, revue politique.
Construction, obéir à sa voix.
Ah oui, c'est un malade, hein, c'est un vrai dingue. Il est capable de tout faire. Oui.
Imiter son silence.